Casino avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, aujourd'hui qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le vignoble de Savoie. Un zoom sur les coteaux bourguignons, un super rapport qui a été pris. Le livre 50 jours pour comprendre autrement le vin, signé André Derieux. Le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invideradio.tv. Bref, 100% bonheur grâce à qui? Hélène Piau, David Cobol et Philippe Orbach. Ils sont tous là. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour bien commencer cette émission donc, du dimanche à Invino Sud Radio, retrouve Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal, avec un super invité, Julien Boscus, qui est un chef émérite. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors vous êtes aveyronnais et dans votre génétique, vous avez un peu de restauratrice dans la famille et puis un petit peu de boucher charcutier, racontez-nous.
Exactement, donc ma grand-mère a été restauratrice, ma mère a pris le restaurant aussi, la suite de ma grand-mère, et du côté de mon père, il a commencé boucher et ensuite est devenu charcutier, il a fait un charcutier traiteur.
Vous étiez où dans l'Aveyron?
Alors dans un petit village qui s'appelle Saint-Cyprien-sur-Dourdou, à côté de Conques, Conques et Marciac.
Ah Conques, merci.
Entre Conques et Marciac.
Bien sûr, voilà. Bien sûr, Hélène. Vous connaissez la région, non?
Alors,
dans l'Aveyron.
Alors, je la connais un peu.
Vous n'êtes pas un soupirant qui vous a invité à passer une nuit d'amour de folie
Mais pourquoi un seul?
Non, pourquoi un seul? Et pourquoi une seule nuit, d'ailleurs?
C'est ça, enfin, je veux dire, tant pis pour vous si vous voyez petit. Bon, alors, donc, nous reprenons Julien Boscus. On va rappeler rapidement votre parcours, que des grands noms. Yannick Aleno, Pierre Gagnère, mais pas Pierre Gagnère à Paris, Pierre Gagnère à Séoul.
Les deux.
Les deux.
3 ans à Paris et 2 ans et demi à Séoul.
Ah, j'avais retenu que Séoul. Et puis, retour en France en 2013, Les Climats dans le 7e arrondissement.
Super restaurant.
Très, très joli restaurant, blindé de vin magnifique.
Très, très Bourgogne, quand même,
de Bourgogne.
C'est ça, très marqué Bourgogne. Et puis, donc vous venez de passer la Seine pour vous installer rue de Ponthieu.
Exactement, on est ouvert le 15 octobre. On est situé au 6 rue de Ponthieu, dans le 8e. Et voilà, on a un joli petit restaurant, 35 places assises. Ouvert du lundi au vendredi à midi et soir.
Midi et soir. Ouais. Et vous avez des actionnaires parce que ça coûte cher tout ça, le quartier. Là, c'est chez les riches tout ça. Hein. Qui vous a aidé financièrement à monter tout ça?
On a. J'ai des associés, bien sûr, avec moi.
Que l'on salue.
Que l'on salue, bien sûr.
Notamment des avocats. On m'a dit qu'il y avait des avocats formidables.
Ouais. Exactement, voilà. C'est ça.
Voilà. Alors, il y a un associé qu'on va saluer en particulier, c'est Thibaut Souchon, voilà. Puisque c'est lui qui s'est occupé de la carte des vins, je crois.
Carte des vins aussi, c'est un copain à moi. On se rencontre à Séoul. Et on a toujours à cœur d'ouvrir un restaurant à Paris, c'était un peu un de nos rêves. Et voilà, la vie s'est fait pour réaliser ses rêves. Donc,
vous avez quel âge, Julien, là?
Moi, j'ai 38 ans.
38 ans. Alors, les plats signatures, parce qu'on va s'intéresser au vin juste après, Hélène. Alors, bon, j'ai évidemment dégusté chez vous là, un lièvre à la royale. Il reste encore quoi, une petite vingtaine de jours pour le goûter. Il est sublime. Vous avez d'autres plats signatures?
Alors, les plats signatures, on a les plats signatures de saison. On n'a jamais de plats signatures toute l'année. On essaie vraiment de travailler sur la saison. Et donc là, les plats signatures de saison, c'est le gibier. On est vraiment dedans. On avait des cèpes, mais on avait un très joli plat des cèpes, mais on a arrêté cette semaine parce que tout simplement il fait froid et il pleut, donc il n'y en a plus.
Ah oui.
Et là, on a le lièvre à l'oreal, bien sûr, qu'on a mis en place il y a une semaine, qui va rester tout le mois de décembre. On le fait façon Antonin Carême. Et on a mis un chevreuil aussi, d'autres chevreuils à la carte, qui est très très bien.
Et c'est voilà. Que du light en fait. Hein.
Du light. Non, on a un rouget, on a mis un beau petit rouget. On a mis un rouget grillé au barbecue. Enfin,
vous donnez faim en tout cas. Là,
avec une sauce au foie gras et tout ça.
Alors, la sauce au foie gras, je crois qu'elle vient avec la fricassée de cèpe de pays, c'est ça?
Alors, c'était ça, c'était avant. On avait un petit copeau de foie gras, on avait une moussine au café.
C'est
qu'on
était
dessus. Ah, oui, il y a les verres qui arrivent d'ailleurs. C'est, oui.
Voilà. J'avais noté un toast melba de cèpe à l'huile de noisette du moulin de Méjane. Ça me tentait bien, ça.
Voilà, mettez-nous un petit peu de tout. Hein.
C'est ça, vous faites comme vous voulez. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on boit? Quels sont vos vins préférés?
De belles bouteilles. On a une sélection axée que sur la France pour le moment. On a ouvert avec 180 références. Et on a un petit peu de tout. On n'a pas fait une carte.
Il y a des vins corses, j'ai vu l'autre jour, il y avait des vins corses.
Quelques vins corses, on a toutes les belles régions françaises, bien sûr. Et on a des étiquettes, on a des petits vignerons, on a un peu de nature, on a un peu de tout. On n'a pas voulu prendre le parti d'une région ou d'un style de vin.
Allez, on va en citer quelques-uns quand même, on va se faire plaisir. Le Vaqueras Blanc Mélodine du domaine de Montvac, le Chablis Grand Cru Lépreuse 2012 de chez Vincent Dovissa, en Loire, le Saumur Champigny Les Mémoires 2017 du domaine des Roches-Neuves. Enfin, il y a effectivement de quoi trouver de jolies choses. Votre sommelière, c'est Olivia Talgot.
On la salue, on l'embrasse. Tiens.
Exactement, Olivia, qui nous a rejoint dans l'aventure et qui ça se passe très bien. Une jeune sommelière, 25 ans d'années. Elles viennent de Lustau-Beaumanière.
Et du château de la Ptoline.
Exactement.
J'ai toutes mes infos.
Exactement, voilà, c'est
vous
ça.
Vous aimez le vin, vous jugez ou pas?
Bien sûr, j'aime bien sûr. Si on aime la cuisine, je pense qu'on ne peut qu'aimer le vin. J'ai pas toutes les connaissances d'Olivia et Thibaut, c'est sûr, mais j'aime bien boire, bien sûr. J'ai vraiment plaisir à boire.
Vous étiez la jeunesse d'Olivia, d'une manière générale, de toute façon, toute votre équipe, c'est entre 22 et 35 ans. Je crois les vieux ont 35 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça, mais je fais partie des vieux, donc.
C'est ça, vous êtes un vieux.
Exactement, avec Thibaut, notre responsable de salle a 3 ans de moins que nous, Ludovic, qui a rejoint aussi l'aventure, avec qui ça se passe très très bien. Et voilà.
Il y a une belle équipe, j'ai l'impression. Il y a un côté team. Hein. Vous avez tous envie d'y arriver. Vous avez la banane, vous êtes sympas tous. Là,
c'est exactement ça. Il y a une belle rencontre de fête. Le resto marche très bien. On a de très bons retours des clients. Et voilà, on a réussi à créer une osmose entre une jeune équipe de gens que tout le monde a envie de.
L'étoile, alors, l'étoile, c'est pour bientôt ou pas là? Parce qu'en cette période, il faut demander les étoiles si vous voulez fêter Noël dignement.
C'est ça, on travaille pour bien sûr, mais la priorité, ça reste quand même la satisfaction du client, c'est évident. On veut que chaque personne qui rentre chez nous soit très content.
Et on parle à ses copains.
On parle à ses copains, bien sûr, bouche à oreille, faut pas oublier que ça reste la meilleure publicité. Ça c'est le premier objectif, c'est sincère. Le deuxième objectif, c'est la rentabilité, hein, parce qu'on crée une entreprise.
Vous êtes combien de personnes à travailler?
On est 10 personnes.
Il y a 10 salaires à payer?
Il y en a 8 pour l'instant.
Même 8 pour 30 clients.
Pour l'instant. Mais il y a 8 salaires à sortir. Donc la rentabilité est importante. Et bien sûr, l'étoile, bien sûr, aussi, qu'elle est importante. Mais il faut respecter cet ordre-là, je pense.
Hélène ?
Alors, puisqu'on parle rentabilité, on va parler prix. Donc, au déjeuner, on peut déjeuner chez Origine pour 44 euros. Entrée, plat, fromage ou dessert.
Exactement. Entrée au choix, plat au choix, fromage ou dessert.
C'est bien de souligner au choix parce souvent dans le menu du midi c'est comme ça et pas autrement. Donc, super. À la carte, il faut compter environ 80 euros, à peu près.
À peu près.
Ouais. Voilà. Et puis le soir, on a un menu dégustation en 6 services.
Exactement.
85 euros et les accords mets et vins. Pour 60 euros.
Exactement.
Oui, donc c'est quand même très complet. Il faut y aller vraiment. D'abord, ça vient d'ouvrir. Ça fait 2 mois, c'est ça, Julien, vous dites ?
15 octobre, exactement.
15 octobre.
Et puis c'est très cosy. C'est en velours bleu,
allez,
en bois.
Coup de cœur, 18 sur 20. Merci, Julien. Ne change rien. Vous êtes parfait. Merci également, vous, Hélène. Vous êtes parfaite, Hélène. Une vidéo Sud Radio.
Encore.
Retour maintenant Philippe Aubrac qui va nous parler des vins parfaits, les Coteaux Bourguignons.
Est-ce que Philippe est parfait aussi ?
Parfait. Parfait, c'est le surnom des Qatars. C'est un vrai Qatar, Philippe. Il a la barbe des Qatars.
Moi, je suis un parfait glacé, c'est un peu la saison qui passe. Voilà. Donc je voulais parler de la Bourgogne, mais pas nécessairement des grandes appellations très connues, et justement d'une appellation nouvelle, puisqu'elle a été créée seulement en 2011. C'est l'appellation Coteaux Bourguignons. Alors, elle s'étend sur 4 départements, qui sont les départements principaux de la Bourgogne, notamment la Côte d'Or. Mais elle produit des vins d'assemblage et de monocépage. C'est vrai que la Bourgogne nous a plutôt habitués à des monocépages, hein, le fameux Pinot Noir et Chardonnay faisant les beaux jours des blancs et des rouges de Bourgogne depuis très longtemps. Mais dans les Coteaux Bourguignons, qui existent à la fois en blanc, en rouge, en rosé et même en clairé, il y a plein de cépages différents. On peut avoir du Pinot Noir et du Gamay, par exemple, mais même du César, qui est un vieux cépage qu'on trouve du côté de Lyon, notamment là-haut. Exactement.
Ça, c'est bien.
Et qui donne un peu de couleur, d'ailleurs, un peu de matière, une petite pointe de rusticité, mais on peut l'utiliser, effectivement, dans les Coteaux Bourguignons. Donc, 3 cépages différents qui peuvent être soit utilisés seuls, soit assemblés. Et ça laisse déjà pas mal de possibilités. Et côté blanc, c'est assez original aussi, puisque, bien sûr, il y a le Chardonnay, incontournable dans la région, l'Aligoté, cher au Chanon Kir, mais qui aujourd'hui, avec la maturité qu'il obtient, donne des vins qui peuvent être vraiment absolument intéressants. Le melon de Bourgogne, qu'on avait tendance à oublier parce que tellement il fait les beaux jours du muscadet depuis longtemps que finalement on en trouve encore dans sa région d'origine, notamment dans la partie nord, mais également du pinot blanc. Et également du pinot gris.
Mais on trouve tout là-bas.
Donc, on trouve, voilà.
C'est comme
le Samaritaine. Bah oui, qui va réouvrir dans pas longtemps. Peut-être trouver des coteaux bourguignons, j'en suis sûr d'ailleurs, dans cette institution parisienne. Alors cette appellation permet aux amateurs et aux curieux de découvrir finalement, ou de redécouvrir justement certains cépages, et surtout d'accéder à la Bourgogne sans se ruiner. Parce que dès qu'on évoque la Bourgogne, oui, on dit toujours, ouais, mais là, je n'ai pas les moyens, ou là, là, ça, je ne peux pas en trouver, etc. Or, on a en coteaux bourguignons des Bourgognes à partir d'une dizaine d'euros.
Oui, ce qui est très raisonnable.
Plutôt sympathique, voilà. Alors, c'est pas toujours des grands vins, mais certains peuvent l'être.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas cher.
Non, mais il faut
la mauvaise, c'est
accessible.
Pas terrible.
Non, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Non, c'est
même
pas vrai,
si
c'est
ça
délicieux.
Ça traduit quand même un peu mon propos.
Ça dépend des vignerons, on va dire. Voilà.
Ça dépend des années, ça dépend des assemblages, ça dépend des choix de vinification, ça dépend de la maturité des raisins. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais néanmoins, il faut pas penser aussi que parce que c'est c'est un prix accessible, que ce sont des petits vins légers, fins, qui se boivent tout de suite. Certains peuvent être des vins de garde, super intéressants, et du coup représentés...
Plutôt pour les rouges, Philippe ?
Plutôt pour les rouges, exactement. Alors, quelques exemples de domaines. Le domaine Ferraud, par exemple, qui a produit, notamment en 2013, un blanc tout à fait remarquable, élaboré essentiellement à partir de Chardonnay, et qui est encore aujourd'hui, en 2019, tout à fait intéressant de goûter. Une autre propriété, la famille Charlet, qui propose une cuvée en rouge à base de gamay et de pinot noir, qu'on appelle les phalangères, et qui est à la fois floral, fin, délicat, et en même temps assez structuré en bouche. Dans les grandes maisons, qu'on évoque souvent pour bien d'autres appellations, je pense à la maison Bouchard Père et Fils, par exemple,
belle maison,
qui également qui en ont profité, tout comme la maison Bichot d'ailleurs, d'élargir leur gamme traditionnelle de vins de Bourgogne avec cette appellation Coteau Bourguignon, pour avoir des vins extrêmement bien élaborés, vinifiés et bien élevés, avec le temps qu'il faut pour avoir la mise en marché, mais avec des très très bons rapports qualité-prix.
David Cabot
également.
Je crois, si je ne m'abuse, Philippe, qu'on peut incorporer des vins issus de la région beaujolaise dans les Coteaux Bourguignons.
Oui, parce que le gamay rentrant dans l'appellation, on a effectivement la plupart des vins, ceux qui viennent du Rhône, de Saône-et-Loire, sont souvent élaborés à partir de gamay. On va plutôt trouver effectivement le pinot noir et le chardonnay plutôt en Côte d'Or, et puis le fameux César Melon de Bourgogne, ou certains pinots plutôt dans l'Yonne, qui sont les quatre départements qui ont droit à cette belle appellation. Alors ce sont je pourrais vous parler aussi d'un petit domaine qui s'appelle Pierre Néjon. C'est peut-être effectivement un nom d'actualité avec le temps qui est...
Oh là là, avec César, Pierre Néjon, c'est chaud aujourd'hui. Hein.
On va parler de la Savoie, ça tombe bien.
Exactement, un saut de ski. C'est super pour aller agrémenter les plats de saison. Alors, peut-être pas le lièvre à l'Oréal de
Julien, le restaurant d'origine. 6 rue de Pontieu à Paris dans le 8e.
Ça demande de vin un peu plus velouté, un peu plus ample, mais avec une viande ou un gibier juste rôti, une côte de chevreuil par exemple, qui ne demande pas nécessairement beaucoup d'intensité, mais quand même de la suavité, ça peut très bien fonctionner. Avec tout ce qui est terrine, petite planche de cochonnerie, on peut bien l'imaginer aussi. C'est un vin simple, finalement accessible au prix. Super intéressant à faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas nécessairement cette appellation, qui est une des appellations les plus récentes de la Bourgogne. Et surtout, il y a plein de petites pépites à découvrir dans ce site d'appellation.
Merci beaucoup Philippe Forbach, merci à tous. On se retrouve dans un instant, toujours au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, avec le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et le Vino Quiz. Hélène,
je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Voici la question de ce week-end. De quel château Antoine Medville et ses associés ont-ils fait l'acquisition en 2008? Réponse A, château Fleur-Lamotte. Réponse B, château Pissenlit-la-Colline. Ou réponse C, le château de Versailles. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, c'est vraiment compliqué. Hein. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. Invino Sud Radio retrouve David Cobol, notre anglais à nous, la cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux. Pour prendre de la hauteur, mon cher David, nous partons dans Savoie.
Oui, dans les Alpes. Dans les deux Savoies d'ailleurs, parce que l'appellation vin de Savoie touche la Haute-Savoie, mais surtout la Savoie. Alors c'est une zone de montagne certes, mais on ne peut pas vraiment parler de vignoble de montagne. C'est un vignoble entouré de montagnes, parce que l'altitude est haute certes, mais n'est pas à 1000 mètres ou à 800 mètres. Hein. Ça va de 250 à 450 mètres, sur des pentes très souvent, et souvent au bord des lacs. Parce que je vous rappelle que quand même entre ces deux... département, vous avez le lac Léman au nord, dans la Haute-Savoie, vous avez le lac du Bourget et le lac d'Annecy, et autour de ces zones-là se situe la majorité des vignobles de la Savoie. C'est bien, si vous partez au ski, vous aurez certainement des vins, et vous n'aurez même pas le choix dans beaucoup de restaurants que des vins de Savoie. C'est un de leurs problèmes d'ailleurs, parce que la consommation locale et touristique est si importante dans les deux saisons d'été et d'hiver surtout, que très très peu de vins trouvent leur chemin en dehors de la région elle-même. Globalement, on exporte, c'est-à-dire en dehors de la France, seulement 5% des vins sont exportés. C'est très faible. Et trouver des vins de Savoie à Paris, par exemple, en dehors des restaurants savoyards, c'est aussi extrêmement rare. Un des problèmes, c'est bien sûr la consommation locale très importante, donc une demande locale forte. L'autre problème, c'est l'extraordinaire complexité des appellations pour une région qui n'est pas, après tout, si grande. Parce qu'il y a 2200 hectares de vignes, il y a 3 appellations seulement, mais il y a encore un paquet de crus qui peuvent porter leur nom sur les étiquettes. Et parfois, le nom du cru est plus important que la mention « vin de Savoie ». Donc, on ne sait même pas si ça vient de Savoie.
C'est bien compliqué,
parfois.
Oui.
Alors, moi, je dis que c'est totalement illisible, leur structure d'appellation, en dehors de la région.
Je crois, David, qu'il y a une vingtaine, finalement.
Il y en a une vingtaine, oui. Une vingtaine de crus, oui.
Je ne vais pas les nommer tous. Donc, c'est quand même
très complexe, et parfois, en plus, on nomme un cépage par un autre nom dans le cru. Par exemple, Chignan Bergeron. Bergeron, c'est le nom local pour la Roussanne. Donc, c'est fait à 100% avec la Roussanne, mais ça s'appelle Chignan Bergeron. Or, si un vin s'appelle Chignan, tout court, on peut mettre plein d'autres cépages dedans.
Et notamment la Jacquère.
Et notamment l'horrible Jacquère.
Ça devient très compliqué, votre histoire, Cobol.
C'est ça, faut suivre.
D'autres exemples, David, la Roussette de Savoie est fait avec l'Altesse.
Et voilà. Oh, alors, je veux pas Cobol ou Philippe.
Non, mais c'est absolument illisible. Bon, passons sur les mauvais points. Maintenant, je vais vous parler quand même de choses positives sur cette région, parce qu'on est fait de très jolis vins. Alors, à dominante blanc, mais il ne faut pas négliger les rouges, parce qu'il y a un cépage rouge particulièrement intéressant et assez largement planté, en dehors du gamay et du pinot noir qu'on trouve également ailleurs, bien sûr, c'est l'amandeuse. Et l'amandeuse est un cépage qui a regagné du territoire récemment et peut faire des vins très très intéressants en Savoie. On trouve aussi des cépages un peu mineurs, mais aussi très intéressants, qui ont été sauvés, comme le persan, par exemple.
Le persan.
Le persan, je crois qu'il y a...
On a parlé de César tout à l'heure.
Il y a une dizaine d'hectares dans le monde. Le problème avec le persan, c'est que les vignerons qui veulent planter du persan, ils n'ont pas droit à mettre plus de 10% dans leur assemblage.
Et pourquoi?
Parce que c'est la règle, les appellations sont trop rigides. Voilà. Donc il faut que l'INAO, je compte sur Philippe pour faire bouger les choses, fasse évoluer cette chose-là. Alors dans les blancs, il y a aussi bien sûr le chardonnay, mais le plus planté de très loin, c'est le célèbre Jacquère, qui va très bien pour faire des mousseux, mais en dehors, bon, j'ai goûté des bons, il faut le dire, pour une fois. Mais en dehors, c'est assez ordinaire, parce que ça a tendance à faire des gros rendements, donc ça n'a pas toujours été bien traité. Mais c'est toujours pareil, un mauvais cépage, c'était un cépage au mauvais endroit, ou mal conduit. Donc on peut faire des bons vins avec le Jacquère. On trouve un peu le Chardonnay, on trouve la Roussanne, l'Altesse, le Chardonnay, comme je l'ai dit, et aussi deux cépages qui ont des gelés. Non, très rare, la Molette.
La Molette.
Oui, c'est la clé du succès.
C'est sûr.
Hein, ça y est. Ah oui, c'est pas non plus la mi-molette.
La molette, voilà.
Et le Gringet. Le Gringet.
J'aime alors, bien le jeu de mots Gringet, c'est quoi?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Moi, je n'ai pas trouvé. Alors, le Crémant, c'est la plus jeune appellation de Crémant en France, puisque cette appellation date de 2015. Aujourd'hui, ce n'est que 5 ou 6% de la production de Savoie, mais je pense que ça va gagner du terrain, comme tous les Crémants partout. Alors, j'ai dégusté à peu près tous les blancs dans une récente dégustation, une partie des rouges. Donc, quelques recommandations. D'abord, deux domaines dont j'ai aimé tous les vins, ce qui est assez rare. Chaque domaine n'avait que 4 vins à présenter.
Blanc et en rouge, David ?
En blanc et en rouge. D'accord. Domaine Bouvet. C'est un des grands producteurs parce qu'il a 20 hectares. Donc, c'est considéré comme grand en Savoie. Domaine Bouvet, prix entre 8 euros pour les blancs entrée de gamme. Et une cuvée de mandeuse excellent à 25 euros, c'est le sommet. D'accord. Mais en gros, ça tourne entre 12 et 15, hein, donc c'est raisonnable. Ensuite, le domaine Genoux, qui porte aussi le nom Château de Mérande. C'est très bon, c'est plus cher que la moyenne, puisque là, les prix vont de 15 à 22, 25 euros. Mais vraiment, tout était bon chez eux. Il y a beaucoup de Quenard. Quenard, c'est un nom partagé par beaucoup, il y en a partout.
Notamment en Chignan.
Notamment en Chignan. Donc Jean-François Quenard fait de très jolis vins. Un domaine qui s'appelle la Combe des Grandes Vignes, aussi, très bien. Et puis un autre Quenard, André et Michel Quenard. Et puis un domaine qui n'était pas là, que j'ai goûté ailleurs une autre fois, Berlioz, qui fait vraiment d'excellents vins.
Berlioz, aussi, quoi.
Ça chante.
Voilà. Merci beaucoup, David Cobold. Une vidéo sur Radio retrouve maintenant André Derieux, consultant en patrimoine de la vigne et du vin notamment, on a la chance d'avoir dans notre équipe hein, comme chroniqueur. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre dernier bouquin. André, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Le concept de les 50 jours pour comprendre autrement le vin, quel est-il?
Le mot-clé, c'est comprendre dans les 50 jours pour comprendre autrement le vin. Parce que l'homo sapiens, il veut pas que sapiens, il veut comprenance aussi. Et c'est vrai que dans le monde du vin, on a... peut-être une partie qui passe un petit peu à l'as, c'est la troisième dimension du vin, on pourrait dire, à côté du vin œnologique, du vin de dégustation et puis du vin convivial, c'est le vin culturel. Donc cette troisième dimension culturelle, aujourd'hui, il faut qu'elle revienne en force et c'est un petit peu une illustration que veut être ce livre par rapport à ça.
Hélène ?
Alors j'ai envie de dire
vous
que...
Vous l'avez lu, Hélène, hein ?
Bien évidemment.
Évidemment.
Enfin, depuis quand je reçois des invités sans lire leur livre ?
Bien sûr.
Non, j'ai envie de dire surtout que l'autre mot important dans 50 jours pour comprendre autrement le vin, c'est autrement.
Également.
Parce que c'est pas un ouvrage didactique.
50 qui est important aussi.
Bah oui, mais moins finalement.
Jour, c'est pas très important, ça veut dire chapitre finalement. Hein. C'est comme.
Non, mais je veux dire, c'est pas un livre où on va vous dire alors c'est un cépage rouge parce que le rouge se trouve dans la peau, c'est les anthocyanes, on s'en fout, c'est pas la question. C'est vraiment un livre où on apprend des choses en se marrant déjà, ce qui change effectivement. Et puis, où même les concepts qui reviennent régulièrement en dégustation sont effectivement abordés autrement. J'en veux pour preuve un concept cher à David Cobold, la minéralité dans le vin. J'aime beaucoup la façon dont vous l'abordez, André, parce que d'abord, vous expliquez que c'est quand même quelque chose qui se définit en creux, c'est-à-dire que c'est effectivement compliqué de dire ça. Enfin, on est obligé de dire ça a le goût de pierre à fusil, même si on n'a jamais léché de pierre
volcan.
À fusil. Enfin, moi, jamais en tout cas. De volcan aussi, effectivement, comme le disait David Cobold. Mais vous dites aussi qu'en fait, le corps reconnaîtrait peut-être inconsciemment les quatre éléments qui composent la planète.
Oui, c'est vrai, c'est un petit peu métaphysique comme conception, c'est de se dire, si on se projette, il y a quand même pas mal de gens qui disent aujourd'hui que dans la dégustation, on se projette plus soi qu'on découvre réellement les côtés organoleptiques, les expressions du vin. Et donc, comment on se projette dans les dégustations, c'est peut-être notre rêve, effectivement, de minéralité, d'accord avec les quatre éléments, hein, l'air, l'eau, la terre et le feu. Et que finalement, quand on regarde les commentaires qui sont faits de dégustation, il y a des études qui ont été assez poussées, qui ont été faites sur les mots qui correspondent à cette minéralité, on retrouve ces quatre éléments-là. Et c'est un petit peu l'objet du livre, c'est d'aller chercher derrière tout ce qu'on connaît, la signification, le pourquoi et le comment. Quand on parle du chabreau, par exemple, cher à Philippe Faubrac, faire chabreau, ça rejoint une conception qui était tout à fait classique à une certaine époque.
Et c'est que
le vin, c'était un aliment.
Oui, c'est voilà. Ça. Et il paraît que les vins de Bordeaux, c'est un élixir d'amour, vous confirmez ou pas?
Oui, c'est dans Donizetti, vous avez lu le livre.
Bien sûr, j'arrête pas de dire. Dès qu'elle est terminée, hop, je lui pique.
Formidable, et en fait, oui, l'élixir d'amour dans l'opéra, à un moment, il faut faire ce triste constat, c'est que c'est pas un élixir d'amour, c'est du Bordeaux. Voilà. Mais bon, ça redonne aussi la main à l'être humain de transformer le Bordeaux en élixir d'amour.
Ça va relancer le Bordeaux bashing, ça. C'est... Et alors, sinon, il y a d'autres choses.
Oui, on s'approche de Noël, donc des vins pétillants. Et alors, j'ai appris avec vous l'origine du mot pétillant. Je suis pas sûre d'arriver à le caser au repas de réveillon, mais en même temps, j'ai trouvé ça assez drôle. En fin de soirée, ça peut le faire. On vous écoute ?
Ah bah, il faut lire le livre, là, pour le...
Ah non,
non, dites-nous !
Petit zing, quand même, alors.
Non, c'est vrai que le mot pétillant, ça vient de paix. C'est
de paix ?
C'est une expression
parce que ce sont des vins qui pètent.
Il y avait des bulles.
Des bulles, voilà, ça a
des bulles. Il faut le caler, quand même, tu vois.
C'était très festif.
Saint-Valentin, à la fin de la soirée, là, c'est cool, non ?
Les effervescents et les mousseux, c'est des vins très très festifs. D'ailleurs, au tout début, c'était des vins qui servaient à faire. C'était un jeu, ça s'appelait le saut de bouchon. Voilà. Et on avait sa bouteille de vin, alors ça ne faisait pas comme sur les circuits de Formule 1,
oui.
Mais on attendait quand même que le bouchon saute. Et voilà, c'était
il y a d'autres questions si vous interpellez, peut-être, Hélène Piau
Effectivement, il y avait cette histoire de chabreau dont on parlait tout à l'heure. Au passage, j'ai aussi appris une chose concernant Philippe Faubrac.
Il a une barbe, ce forêt.
Je suis en face de ce garçon deux fois par semaine, puisque nous avons deux émissions depuis des années, et j'ignorais qu'un jour, pour faire chabreau, vous aviez versé du cheval blanc dans un velouté de champignons.
C'est vrai.
Oui. Bravo, avec Pierre Perret et Ariane Daguin.
Vous
avez été balancé par André Derieux dans ce livre, vrai. 50 jours pour comprendre autrement
mais
le
j'étais aussi avec Pierre Lurton, auquel j'ai posé la question, et j'ai eu son approbation, même sa bénédiction. Ah, ça a choqué un peu les Américains qui étaient là. Ça s'est un peu déchaîné sur les réseaux à l'époque, mais finalement, la légende reste.
Bon, c'était il y a longtemps. Voilà,
donc on comprend aussi autrement Philippe Faubrac, vous voyez.
C'est vrai que le travail du livre, c'est d'essayer d'attirer une nouvelle clientèle au vin, parce que la consommation de vin augmente partout dans le monde, mais baisse un petit peu en France, et c'est d'aller chercher des nouvelles clientèles qui s'intéressent au storytelling, qui s'intéressent à la culture, qui s'intéressent à la civilisation, qui sont curieux. Et finalement, on peut leur raconter n'importe quoi, et ça ramène toujours au vin, ça ramène toujours au vignoble.
Combien ça coûte, André ?
16,50 €.
16 euros, il est édité chez qui le bouquin? Parce
il est édité dans une maison d'édition donc, auprès de la, dans laquelle on crée cette collection qui va s'appeler Culture et Vin. C'est le premier ouvrage de cette collection. Et la maison d'édition s'appelle Ellipse.
Ellipse.
192 pages, 16,50 €. Ouais,
faut y aller, faut en acheter plein. Merci beaucoup André Derieux, merci à également vous. À vous. Hélène Piau, David Cabot et Philippe Forbach, merci également à la Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Vous nous rappelez le titre exact là, du bouquin Derieux, parce qu'il y a 5 secondes là, il s'appelle comment?
Toujours pour comprendre autrement le vin aux éditions Ellipse.
Merci beaucoup, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise, hein, n'oubliez pas, pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Nous serons chez Nicolas à Paris, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, observez la plus grande des modérations.
Invino avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.